Cube Radio.
Bonjour, bienvenue au podcast de Pain sur Tarte. Mon nom est Kazi, je suis en compagnie de Christine Lemu.
Hello!
Et de Raphaël Lavoie.
Salut!
Comment ça va?
Ça va bien. Puis toi, comment ça va?
Ça va bien. Si vous remarquez que ma voix est un peu différente aujourd'hui, c'est que j'ai perdu la voix cette semaine. Je suis désolée, les amis. Je suis allée à trop de concerts. J'ai fait trop le party. Non, c'est pas vrai. J'ai absolument rien fait.
Arrête de sortir, quasi. Là. C'est assez.
C'est ça, je vais arrêter de profiter de la vie pendant la COVID. cette semaine, les choses sont quand même un peu différentes. L'actualité tourne autour d'un événement assez majeur qui se passe dans le monde. Donc, le gaming, c'est sûr que ça prend un peu moins d'importance. C'est comme pas mal moins important, mais il y a quand même des choses qui se sont passées récemment dans l'univers du gaming qu'on trouve intéressantes puis qu'on voulait vous partager. Question de vous partager aussi quelques petites nouvelles douces de temps en temps, ça fait du bien. Mais on va commencer tout de suite, dans le fond, on va commencer avec la chronique de Christine, tante adorée, qui s'appelle « La niche à l'EMU ». Christine, une autre carte Pokémon a été vendue à un prix complètement ridicule.
Écoute, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait acheter avec cet argent-là, mais c'est certainement pas une carte Pokémon que je ferais avec
comme achat.
C'est inconcevable. On a même titré l'article, la carte, une des cartes les plus rares vendues aux enchères à un prix ridicule, parce qu'on trouve ça complètement ridicule. Alors la folie des cartes Pokémon fait encore les manchettes, et cette fois-ci, c'est une carte à collectionner qui attire l'attention. Encore. Donc, la semaine dernière, une des cartes Pokémon les plus rares sur le marché a été vendue aux enchères à 900 000 $ américains.
C'est ridicule.
T'as un beau manoir à ce prix-là.
Écoute, ça ou un condo sur le plateau? OK.
Un ou l'autre.
La carte en question, c'est la carte, la fameuse carte Pikachu Illustrator holographique qui a été vendue à 900 000 $ lors d'une enchère avec le marchand Goldeen. Cette carte qui est...
Goldeen, c'est le nom d'un Pokémon?
Le marchand s'appelle Goldeen, en plus, c'est ça qui est hot.
Goldeen. C'est pas sirène.
Oui, c'est vrai, hein. Puis c'est quoi son call quand elle parle? C'est poissy-poissy.
Poissy-poissy-poissy-poissy-sirène.
Tout est dans toutes. Écoute, donc la rareté de cette carte s'explique tout simplement par le fait que il en existe pas beaucoup. Donc il y a 41 exemplaires de la carte qui existent dans le monde et 39 d'entre elles ont été distribuées au public entre 1997 et 1998 lors d'un concours qui avait lieu dans un magazine qui s'appelle Korokoro Comic au Japon. Donc, vu que la carte est super rare et vu que tu mets toutes les circonstances là-dedans, puis l'inflation et tout, ben ça donne que des enchères de 900 000 $, ça se passe maintenant sur les belles réalités de 2022. Et on dirait peut-être même que cette carte-là aurait brisé les records Guinness parce que dernièrement, il y avait déjà 3 cartes Pokémon, 3 ventes qui ont été faites pour des cartes Pokémon qui avaient brisé des records. Et là, cette fois-ci, à 900 000 $, ça vient briser le record de la dernière vente qui remonte à décembre 2020, qui était de 369 000 $ pour un Charizard holographique sans ombre, première édition. Fait que vous avez probablement pas de cartes Pokémon Illustrator dans vos boîtes chez grand-maman, mais vous avez peut-être un Charizard là-dedans. Donc, encore une fois, on vous demande, fouillez dans vos placards, fouillez dans vos greniers. C'est sûr que vous allez retrouver vos collections de première génération de cartes Pokémon. Mm-hmm. Et peut-être de payer vos dettes d'études avec ça, qui sait, hein?
Ouais, ouais. Alors, il y a peut-être une mise de fonds sur une maison, là, écoute, dans votre coffre à jouets
c'est
du primaire.
Clair. Donc, ça
moi,
serait vraiment...
Moi, ce qui m'impressionne...
Hein? Vas-y.
Excuse-moi, moi, ce qui m'impressionne, là, c'est que ces cartes-là, c'est même pas mint, dans le sens que c'est des cartes libres, hein? Ils sont pas... sont pas plastifiés, sont pas dans leur emballage, rien, c'est
non,
des
c'est
cartes libres comme
puis,
ça. Puis je pense que c'est même pas dans le meilleur état. Il y avait une carte dans le meilleur état que celle-là en plus.
Si je me trompe pas, c'était l'une des, c'était pas la seule qui était en meilleur état. Celle-là était mint 7. Il y en a une autre qui était en meilleur état qui venait directement du concepteur des règles de jeu de cartes. Qui avait été vendu en 2020 et en plus elle avait été vendue à beaucoup moins cher que ça.
Ouais, c'est 2020. C'est ça que je comprends pas.
Donc c'est on parle de l'inflation, ben l'inflation se fait aussi dans les cartes Pokémon, donc ça serait pas étonnant qu'on aille des ventes de qui dépassent le million de dollars très bientôt, ce qui serait complètement ridicule mais malheureusement très plausible.
C'est du carton, là. On le rappelle, là. C'est du carton.
Yeah, du carton, du carton. Exact.
Du carton.
C'est la vraie folie. Ben, parlant de folie, il s'est passé quelque chose d'autre assez fou récemment. Le jeu Elden Ring est finalement sorti et là, tout le monde en parle. C'est la folie sur le web. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, d'Elden Ring, Christine?
Écoute, j'ai pu jouer Elden Ring. On s'est procuré des copies PC parce que notre copie PS5 est encore pognée à Miami. Ça, c'est ridicule. Mais bon, c'est pas grave. On s'est pris des belles copies PC pour pouvoir jouer au jeu. Le jeu a été présenté comme un jeu qui allait être moins stressant pour les joueurs, peut-être même un peu plus facile ou un bon jeu pour les débutants. On l'a vu là dans le nombre de ventes qui ont été faites. Il y a beaucoup de gens qui ont été attrapés dans la folie de Elden Ring et se rendent...
Ils ont été leurrés.
Leurrés parce que Elden Ring est, malgré le fait que ça semble facile, c'est difficile. C'est un jeu très difficile, très frustrant, mais ô combien magnifique. Et
justement, je vais juste t'interrompre deux minutes pour poser une question. Là, mettons moi là, qui déteste là, à mourir les jeux Dark Souls parce que je comprends pas qu'on peut être maso de même, mais c'est correct là. Mais tu sais, j'aime vraiment pas ça. Est-ce qu'il y a des chances que j'aime Elden Ring? Parce que tu sais, en tant que gamer, même quand tu n'aimes pas un genre ou une série de jeux, mais que tu vois que le dernier volet, mettons, de cette franchise-là, des critiques dithyrambiques, là, genre des critiques que t'as pas vues depuis des années, ben ça pique une curiosité. Mm-hmm. J'ai eu les Dark Souls, mais je suis curieux d'Elden Ring, puis je suis convaincu que je suis pas le seul dans cette situation-là.
Ouais, fait, aussi,
j'aimerais-tu ça?
Non!
ça le mérite d'être clair.
Écoute, on va être très franc, là, c'est un Dark Souls avec un monde ouvert. Donc, le niveau de difficulté est toujours le même, le niveau de frustration est toujours le même. Il faut avoir beaucoup de patience. C'est vraiment destiné à un public qui est pourvu de patience, qui est pourvu de passion pour les stats, qui est prêt à faire des grandes quêtes pour avoir un item en particulier. Non, Elden Ring n'est pas pour tout le monde, mais c'est un bon jeu de départ pour découvrir ce que le monde des Souls pourrait nous réserver. Comme de fait, c'est pas un jeu facile. Sans dire que c'est des menteurs là pour nous dire qu'ils voulaient rendre ça moins stressant. Tu sais, je comprends le niveau de moins stressant parce que tu peux enfin prendre des stratégies peut-être plus libres que Dark Souls, qui est souvent toujours un couloir puis que t'as pas le choix de battre des ennemis qui sont sur ton chemin. Dans Elden Ring, tu peux prendre des chemins peut-être aléatoires, des raccourcis ici et là. Donc tu peux avoir ton style de Dark Souls à la façon que tu veux, d'explorer le jeu à la façon que tu veux. Mais ça reste difficile, genre, ça reste des boss de Dark Souls. Fait que, ouais, c'est, mais on se rend compte, genre, donc, avec, les ventes qui ont eu lieu, les chiffres qu'on a, c'est vraiment les ventes pour le Royaume-Uni, mais ça se transpose très bien pour le reste du monde, là. Donc, Elden Ring a été un succès fou auprès des joueurs. Beaucoup de gens se sont lancés dans la folie parce que le marketing était fort, parce qu'il y avait beaucoup de publicité, les gens poussaient énormément ce jeu-là. Et ben on l'a vu, ça a battu des records au Royaume-Uni. Donc, dans quelques jours après la sortie d'Elden Ring, le jeu a connu des ventes records en comparaison aux autres jeux de From Software. Et en se basant uniquement sur les ventes physiques, Elden Ring a dépassé de 26% le plus gros lancement d'un jeu Souls en boîte, qui était Dark Souls en 2016. Donc, déjà, ça en dit beaucoup, mais ce qui en dit encore plus, c'est que les ventes ont été 2,5 fois supérieures à Horizon Forbidden West. Donc, déjà, c'est gros, puis c'est un des plus gros lancements de jeux en dehors des franchises Call of Duty et FIFA depuis Red Dead Redemption en 2018.
C'est vraiment incroyable. Ouais. Ça montre, comme tu dis, l'amour des gens pour les Dark Souls, mais aussi en même temps l'efficacité de la campagne de promotion, le hype qui a été bâti autour de ça. Probablement l'idée d'aller chercher George R. R. Martin comme co-scénariste, c'est sûr que ça a dû aider à la
naïveté. À la naïveté.
Et possiblement, c'est ça, un peu la naïveté, puis un peu le... c'est ça, c'est de dire « Oh, c'est un jeu ouvert, au monde ouvert, ça va être un peu plus accessible, les grosses critiques. » Puis c'est ça qui est ironique, c'est que ça a vendu 2,5 fois, je le savais pas, 2,5 fois les copies d'Horizon Forbidden West jusqu'à maintenant, dans sa première semaine, je sais pas trop. Mais, tu sais, Forbidden West, c'est genre un des jeux les plus accessibles, je trouve, jusqu'à maintenant dans l'année. Genre, aime les jeux d'aventure, les jeux d'action, les RPG, whatever, name it, tu risques d'aimer ça.
Exact.
Ça, en tout cas, ça montre vraiment l'engouement monstre qu'il y a autour d'Elden Ring.
C'est ça, puis c'est vraiment impressionnant. Puis comme tu disais, en plus, avec toutes les critiques positives qu'ils ont reçues, Elden Ring se place quand même comme le deuxième titre le mieux noté avec une moyenne des meilleures critiques, là, avec 96%. Donc, les seuls titres qui ont égalé ça, c'était Zelda, donc Breath of the Wild, et Red Dead Redemption 2 et Grand Theft Auto 5. Le seul qui a surpassé donc cette note-là, c'est Super Mario Odyssey. Donc, c'est normal que l'engouement s'est fait, qu'il y a eu tellement de ventes en physique et en numérique, que beaucoup de gens se sont fait peut-être attraper par la machine et le hype de Elden Ring. Mais soyez patients, prenez votre courage à deux mains, c'est quand même 80$ le jeu aussi, là. Fait que essayez genre d'avancer le jeu, faites du jolly co-op avec vos amis, trouvez-vous un ami qui est super bon à Dark Souls, je peux vous prêter mon chum si vous voulez, c'est pas grave, mais tu sais, c'est vraiment c'est un super beau jeu qui vaut la peine d'être essayé si vous avez la patience et le cœur là pour le cœur quand même si un cœur sensible vous allez trouver ça un peu rough, ça c'est ça.
Mais j'ai hâte de voir en fait le marché de l'usager dans les prochaines semaines voire les prochains mois là.
À suivre. Ouais, c'est ça. Ouais.
Je suis vraiment curieux. En tout cas, à suivre.
Parlons d'un jeu un peu plus accessible. Il y a la démo de Kirby and the Forgotten Land qui est sortie cette semaine. Dans le fond, une démo surprise, on ne s'y attendait pas du tout. On s'attendait peut-être à une démo éventuellement, mais c'est arrivé comme par surprise en plein milieu de la semaine. Démo de Kirby. Christine, tu l'as essayé, toi?
Oui, j'ai essayé le jeu. Donc, la démo, sans trop spoiler, dès les premières minutes, j'ai eu énormément de plaisir parce que j'adore Kirby. Kirby est un de mes personnages préférés de Nintendo. Donc, en l'essayant, donc la démo propose donc 3 niveaux, plus un combat avec le boss. Il propose aussi un mode solo et le mode en coop. Donc, vous pouvez l'essayer avec un ami. C'est donc une super belle démo surprise que Nintendo nous a offerte donc en prévision de la sortie du jeu qui a lieu le 25 mars. Donc c'est ça, j'ai essayé le jeu pendant l'heure du midi parce qu'il est pas très long là, c'est quand même tu sais, je l'ai pas terminé au complet, mais j'ai le peu que j'ai pu essayer. Ça promet, mettons, pour la sortie de Kirby Forgotten Land. Encore une fois, on se retrouve avec des couleurs pétantes, de la musique cute, Kirby qui fait des effets sonores magnifiques, que j'adore. Juste quand il marche, genre, ça fait pouit pouit pouit, c'est vraiment... Moi, ça me tue à chaque fois. Puis, en plus, les joueurs qui jouent à la démo reçoivent un code, donc un code cadeau qu'ils vont pouvoir utiliser dans le jeu complet à sa sortie. Donc, on vous invite à l'essayer. Je veux vraiment pas en dévoiler plus, mais j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis j'ai très hâte au jeu, juste pour ça.
Ben, je l'ai fait moi aussi. Je l'ai fini, la démo.
Puis,
je l'ai
t'as-tu aimé
fini
ça?
hier. J'ai aimé ça, mais je sais pas, c'est un spoiler? Non, c'est pas vraiment un spoiler. Je veux que les gens arrêtent dès aujourd'hui de comparer ça à Mario Odyssey.
Ah ben non,
faut
faut pas
arrêter
faire ça.
Ça.
Mais non,
faut
c'est un
arrêter
Kirby.
ça parce que
C'est ça.
c'est un Kirby, puis ça
Ouais.
reste un Kirby, puis
Exact.
ça feel Kirby. C'est aussi plus linéaire que je pensais. Mais bon, c'est une démo du début. Ce qui est le fun, c'est qu'on voit beaucoup de ce qu'on a vu dans les bandes-annonces,
Exact.
dans cet aperçu-là. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas tout vu dans les bandes-annonces. Ça veut dire qu'il en reste encore beaucoup à découvrir. Mais ça se faisait très rapidement. Puis, j'ai pas trippé sur le boss fight. J'ai trouvé ça un peu button mashing. Tu sais, comme tu utilises ton pouvoir en tapant, tapant, tapant. Il n'y a pas vraiment de mouvement stratégique que tu puisses faire pour... combattre le boss, mais ben c'est une démo, c'est gratuit, allez l'essayer, tu sais, allez l'essayer
Exact.
par vous-même, puis ça va, mais ça m'a quand même intéressé assez pour vouloir acheter le jeu au complet, parce que c'est tellement joyeux, puis c'est tellement facile, puis c'est tellement doux. Tu peux choisir deux modes d'ailleurs, là, tu peux choisir
Exact.
un mode facile et un mode difficile. Moi, j'ai fait le mode facile, parce que YOLO. Ils ont des live ones, pourquoi vivre dans la misère?
Ah, oh, c'est beau ce que tu dis. Ben, c'est tellement un jeu qu'on a besoin en ce moment. C'est quelque chose qu'on a besoin, là, où est-ce que, tu sais, c'est pas Jojo en ce moment, le quotidien, là. Fait que moi, je vais accueillir Kirby à les bras grands ouverts parce que, encore une fois, c'est un jeu qui arrive toujours comme au bon moment, là. On en a besoin.
Ouais.
Un peu comme Animal
Il est très
Crossing.
bien.
Oui, exactement.
Ouais,
Fait que,
il est très bien comme
ouais.
jeu. C'est vraiment nice. C'est une atmosphère un peu différente que les autres Kirby, dans le sens que oui, c'est comme coloré, éclaté, puis tout, mais il y a quelque chose de glauque aussi là, qu'on a vu dans les bandes-annonces. Genre de petite impression glauque. Mais tu sais, la démo est juste assez courte pour pas vous en dire plus. Fait que aller chercher ça, c'est vraiment. Moi, si tu prends ton temps avec, tu peux passer peut-être un bon 25 minutes dessus, là.
Ouais.
Peut-être même une petite demi-heure. Si tu prends ton temps puis t'explores tout, puis t'essaies de pogner toutes les coins. Moi, c'est ça que j'essayais de faire. J'essayais vraiment mes pouvoirs sur toutes les fonctions possibles du jeu.
Ben moi j'ai exploré tous les coins perdus puis toutes les roches que
Oui,
tu pouvais
c'est ça.
taper et tout. Puis j'ai vraiment hâte de l'essayer en coop, voir si ça va devenir un enfer ou pas. Parce qu'on sait, là, comparativement avec les jeux de Mario, quand on joue, je fais juste penser à Super Mario 3D World, que quand tu joues avec quelqu'un, tu joues contre quelqu'un.
Ouais, tu joues contre quelqu'un, ouais.
Exactement. Fait que j'ai vraiment hâte de voir, de l'essayer en coop, puis voir si le gameplay est aussi amusant là, que ça. Là.
Excellent. Ben, on va
Yes.
essayer ça. Merci beaucoup, Christine.
Un plaisir.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
On va passer à la chronique Araf, qui n'a toujours pas de nom. Mesdames et messieurs, si vous avez une suggestion pour le nom de la chronique Araf, on prend les suggestions. On en a eu quelques-unes à date, mais il n'y en a pas une qui a cliqué vraiment. Ça s'appelle la chronique Araf, qui n'a pas de nom. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'a pas de nom qu'elle n'est pas bonne. Elle est tout le temps très, 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 très intéressante parce qu'aujourd'hui, en plus, Raph va nous parler de Gran Turismo 7, un jeu. Ben, les gens en parlent beaucoup en ce moment sur le web à cause que ben, ça sort. Ça sort aujourd'hui.
Oui, ça sort aujourd'hui. Puis écoute, c'est un jeu qui fait appel beaucoup aux souvenirs et à la nostalgie, je crois, chez plusieurs personnes. Essentiellement, le dernier Gran Turismo qui est sorti, c'est Gran Turismo Sport sur la PS4, mais c'était un Gran Turismo particulier parce que c'était un Gran Turismo, un jeu qui était anglais, tout particulièrement pour la compétition en ligne, en fait. Les modes en ligne, c'était quand même plus arcade, c'était plus limité, c'était pas l'expérience quand même solo qu'offrait Gran Turismo par le passé. Il faut retourner au 6, puis là, on retourne loin, là, quand même, il faut le dire. Là. Je crois que c'est un retour que plusieurs personnes attendaient. Et donc, j'ai eu l'occasion de l'essayer et j'ai trouvé ça très particulier parce que tout le monde l'attend, parce que tout le monde est un peu bon, nostalgique, bon, les fans de la franchise. Et au final, c'est un jeu que j'ai trouvé qui donnait exactement ce que les fans voulaient. Donc, on allait vraiment taper dans ces souvenirs-là, dans cette nostalgie-là. Mais ça fait en sorte qu'on a une formule qui est très, très genre fin années 90, début 2000. Et qui est encore la même dans un jeu qui est sorti en mars 2022. Et ça fait comme une espèce de clash. Donc, je pourrais comparer ça vite comme ça à regarder peut-être un reboot ou une suite comme d'une franchise de films que vous aimez beaucoup, là, qui a eu, mettons, deux premiers volets dans les années 90. Et là, on en fait un troisième en 2022, le Ghostbusters ou whatever, peu importe. Puis tu regardes ça, puis t'es comme, hey, c'est cool, mais tu sais, c'est vraiment d'aller fouiller, d'aller jouer sur la nostalgie, puis d'aller fouiller sur cette espèce de vieille vibe-là, tu sais, qui faisait que ça fonctionnait à l'époque. C'est vraiment un peu dans ce genre-là. Donc, bon, parlons-en un peu plus. Gran Turismo 7, bon, vous l'avez deviné, c'est un jeu de course. Le premier de la franchise est sorti en 97. Donc, Gran Turismo fête ses 25 ans cette année, pardon, en 2022. Donc, c'est un septième volet. Ça se retrouve à être le deuxième sur PS4. Le premier sur PS5. Bon, ce qu'on a fait, il y a eu beaucoup d'entrevues, bon, avec les gens de Polyphony Digital, le studio japonais, pour mener à cette sortie-là. Et à peu près à chaque fois, on disait la même chose. On veut faire plaisir aux fans, on veut tabler sur les traditions, surtout pour les 25 ans de la franchise. Et ben, quand on y joue, on se rend compte que c'est exactement ça qui a été livré. Vous ouvrez le jeu, il y a une intro, là, vous allez voir, là, ça dure, sans farce, ça doit durer 10 minutes, c'est interminable. c'est comme le générique, là. Là, tu sais, vous avez tout le monde qui a travaillé dessus, évidemment, mais là, vous avez aussi des espèces, un espèce de slideshow avec des images d'archives de voitures, des espèces de surimpressions avec comme du texte d'époque, puis de l'espèce de petite musique un peu, tu sais, un peu mystique, là, classique, là. C'est, c'est vraiment quelque chose pour de vrai. Vous irez vous faire un café pendant ce temps-là. Puis quand vous rentrez dans le jeu, en fait, on retrouve la formule classique de Gran Turismo. Donc, il y a un mode, il y a une carte du monde qui est un peu l'endroit où est-ce que vous allez retrouver les différents modes de jeu et qui est un peu en même temps le menu principal du mode d'histoire, entre guillemets, parce que bon, il n'y a pas tant de mode d'histoire comme tel. Donc, vous avez la carte du monde, vous pouvez aller compétitionner en ligne, vous pouvez acheter des voitures là-dessus, vous avez les cours de conduite qui sont de retour, vous
c'est
avez
quoi, ça? Les courses. Les cours de conduite, là, ouais. Moi je veux savoir c'est quoi parce que je vois beaucoup de gens parler du maudit cours de conduite de Gran Turismo, ça a l'air bien important. C'est quoi? dans ce jeu-là?
Les cours de conduite, le License Center, comme c'est appelé en anglais, en fait, c'est un endroit où est-ce que tu vas pour passer différents permis qui vont te donner accès à différents niveaux de course. Donc, ça ne débloque pas nécessairement des courses, mais dans ton menu de course, tu vas avoir, mettons, un nouveau championnat qui va popper après que tu ailles gagner une autre course ou whatever. Puis ça va te dire que tu as besoin d'une licence nationale A, par exemple.
Okay.
Comme la deuxième licence du jeu. Tu sais, je pense que tu as National B, National A, International B, International A et la super licence, si ma mémoire est bonne. Mm-hmm. Et dans le fond, chacune de ces licences-là, de ces permis-là, ça se retrouve à être comme une dizaine d'épreuves à peu près que tu as à faire qui sont une piste donnée, une voiture donnée et une situation en particulier. Donc, mettons ton premier test de conduite, si tu veux, pour ton premier permis de conduire, c'est d'arrêter dans une zone en un temps délimité. Fait que tu commences, tu pars de zéro avec ta voiture, puis tu as une zone rouge où est-ce que tu dois immobiliser le véhicule là-dedans. Puis, il faut que tu le fasses, mettons, tu as un trophée bronze, tu le fais en 20 secondes, en 18 secondes, argent, en 16 secondes, or, et ainsi de suite. Puis, c'est ça, tu arrêtes le char dans zone, puis selon le temps que tu as fait, ça va te donner un trophée. Tu passes au deuxième. Deuxième, ça va te montrer comment prendre un virage et compagnie, et ainsi de suite. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que, bon, c'est comme des mini-jeux un peu, puis c'est classique, là. C'était bien fou en 1997, 2022, c'est peut-être un peu moins magique, mais pour celles et ceux qui ont joué à l'époque, il y a quelque chose, tu sais, il y a quelque chose qui se passe. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que ça te montre un peu à piloter, en fait. Ça va t'indiquer comment prendre le virage, comment freiner, si tu veux pas que le char dérape quand tu freines, campe pas les roues, t'as les roues droites, puis tu freines, puis après ça, tu prends ton virage, et ainsi de suite. Fait que bref, c'est intéressant, mais c'est une dimension qu'on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux dans le cadre de la sortie de Gran Turismo 7, surtout parce que, bon, c'est un classique de la série, tu sais, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on retrouve dans les autres jeux de course, puis bon, c'est un des trucs un peu quirky de Gran Turismo, il y en a plusieurs, mais c'est un de ces trucs-là. Donc, bref. Il y a les cours de conduite, notamment sur la carte du monde, qui est le menu principal, on le rappelle. Et la grosse nouveauté, peut-être, cette fois-ci, c'est que là, on a un café, le Gran Turismo Café. Donc, tu arrives là, puis tu as un dos qui tient le café. Là, je me rappelle plus comment il s'appelle. Puis, lui, il te donne des menus. Ces menus-là, c'est comme, pas menu de jeu, là, menu comme tu vas au restaurant là, avec la bouffe dessus. Ces menus-là, en fait... C'est comme des missions, en quelque sorte. Donc, par exemple, tu vas avoir un menu, lui dit « Je veux que tu ajoutes à ta collection 3 modèles de Porsche. Voici les 3 modèles. » Ces 3 modèles de Porsche-là, tu peux les gagner en gagnant 3 nouvelles courses que lui va débloquer dans le monde. Fait que là, tu vas dans le monde, tu fais ces 3 courses-là, tu gagnes les 3 Porsche, tu retournes le voir, il va te dire « Cool, voici l'histoire de ces 3 Porsche-là. » Là, il y a une cinématique qui va parler des caractéristiques des 3 Porsche. Puis après ça, il va te donner un nouveau menu. Pour le nouveau menu, j'aimerais que tu prennes une Mazda et que, je ne sais même pas s'il y a des Mazda, que tu prennes une Ford et que tu ailles modifier cette Ford-là au garage. Puis là, tu vas au garage, tu lui poses un nouveau muffler, tu retournes le voir. Puis là, il va te donner, je ne sais pas moi, un ticket où est-ce que tu peux débloquer avec ça, comme une espèce de tombola, là, que tu peux débloquer de l'argent ou des pièces ou whatever, et ainsi de suite. Et ça continue. Il y en a à peu près une quarantaine, pas loin d'une quarantaine, des menus comme ça.
C'est un RPG!
Ben, un peu...
Ben,
en fait, ces menus-là, pour moi, c'est le compromis qu'on fait Polyphony Digital. Mm-hmm. Pour essayer d'adapter un peu le jeu aux standards de 2022 tout en gardant l'esprit un peu free-for-all de 97. Parce que bon, 97, là, le premier Gran Turismo, tu commences le jeu, tu as 20 000 crédits, tu achètes une vieille table, là, un vieux char, tu gagnes des courses pour gagner de l'argent, tu le modifies peu à peu, après ça, tu peux acheter une nouvelle voiture, puis c'est un peu ça, tu sais, il n'y a pas de mode histoire, il n'y a pas de quête principale, c'est ça, tu fais des courses et tu grindes beaucoup, sauf que, tu sais, en 2022, quand tu vois des jeux de course comme Forza Horizon 5, où est-ce que c'est un immense monde ouvert, tu as de l'exploration, ouais. Tu as un paquet de trucs cachés sur la carte, tu vas avoir des petites quêtes ici et là, différents moderne. Événements. C'est très moderne, c'est très actuel. Et c'est sûr que quelqu'un qui est habitué à Forza Horizon 5 qui va, ou n'importe quel des Forza Horizon qui va se pitcher dans Gran Turismo 7 va trouver que c'est très, très dépouillé là, pour 2022. Il y a beaucoup de voitures, il y a à peu près 35, un genre de 35 circuits avec différentes variations, portions, inversées et compagnie, donc peut-être 90 variations de pistes au grand total. Donc, il y a beaucoup de contenu comme tel, mais l'espèce de contenant, l'espèce de façon de découvrir ce contenu-là, ben, à part le café, le Gran Turismo Café, qui est comme c'est une espèce de compromis, comme je disais tout à l'heure, ben, c'est ça, c'est très bare bones, là, comme on dirait en anglais. Donc, c'est sûr que c'est particulier, tu sais. Après ça, écoute, si on parle du gameplay comme tel, c'est encore une fois une espèce d'hybride entre la simulation et l'arcade, un petit peu plus vers la simulation. C'est hyper bien fait, c'est très agréable. Ce qui est intéressant, c'est que ça peut être accessible aux gens qui, bon, ont envie de jouer à Gran Turismo, mais qui sont peut-être moins habiles pour les jeux de course, parce que, bon, il y a beaucoup de systèmes d'assistance, d'aide au pilotage, qui peuvent être activés ou désactivés à la pièce. Donc, vous pouvez vraiment vous créer comme votre niveau de difficulté. Il y en a des prédéfinis, mais vous pouvez vraiment y aller avec votre propre adaptation un peu de la course pour vous, tu sais, de dire, ben moi j'ai de la misère, c'est freinage, je vais mettre le freinage assisté, mais je vais monter un peu l'intelligence artificielle, ou tu peux jouer un peu avec tout ça. Donc ça, c'est quand même très intéressant, et tu te retrouves à avoir des courses qui sont vraiment le fun, tu sais, qui se prennent bien en main, qui ont un bon niveau, où est-ce que si t'es distrait, si tu regardes la TV on the side, une autre TV, mettons que tu as deux télés dans ton salon, tu es bien hot, tu regardes la télé en même temps, tu vas prendre le clou, tu sais. Il faut que tu sois là, il faut que tu sois investi, mais en même temps, ça reste relativement accessible malgré tout. Donc ça, c'est très réussi. Même chose au niveau de l'intégration de la DualSense, donc la manette de la PlayStation 5 qui est très, très bien utilisée dans Gran Turismo 7. Bon, il y a les gâchettes adaptatives, évidemment, donc de la résistance au niveau du freinage et de l'accélérateur. Mais aussi les retours haptiques, donc la vibration de la manette qui est très, très, très bien gérée. Si vous passez sur une autoroute, sur une piste ou quoi que ce soit, vous savez ces fameux joints d'autoroute ou de pont qui permettent à la route, en fait, de ne pas briser quand elle bouge au printemps ou whatever, que tu sais, tu passes là-dessus, ça fait poudoum, poudoum. Dans une vraie voiture, mettons, ben là, tu le ressens vraiment dans la manette. C'est vraiment bien fait. Tu passes dans une flaque d'eau, l'espèce d'aquaplanage, de perte d'adhérence, tu vas le ressentir dans la manette. C'est hyper bien fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'autant le retour haptique que les gâchettes adaptatives, c'est pas surjoué, c'est pas surutilisé. Il y a certains jeux comme Call of Duty, pour ne nommer que celui-ci, où est-ce que l'utilisation des gâchettes pour les armes, c'est super intéressant. Mais peut-être qu'à longue, tu vas le désactiver parce que, bon, c'est très lourd, c'est un peu intrusif, en quelque sorte.
Mais ça modifie ta réactivité, tu sais.
Oui, c'est ça, exactement. Il y en a même qui se plaignaient, je crois, plus récemment, Cyberpunk 2077, où est-ce qu'il y avait les gâchettes adaptatives qui avaient été ajoutées dans la version PS5. Beaucoup de personnes disaient la conduite de véhicule, c'est lourd, il faut que tu forces après la manette, littéralement. Gran Turismo, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment bien adapté et avec parcimonie. Donc, c'est rien de trop violent ou trop exigeant là, au niveau des gâchettes, au niveau des vibrations aussi. Donc, ça vient vraiment ajouter sans voler la vedette. Donc ça, c'est quand même assez bien de ce côté-là.
Puis pour quelqu'un, mettons, là, qui se dit « OK, on est investi là, avec un simulateur de de course, on a notre siège, on a notre volant, nos clutches, puis notre transmission. Est-ce que c'est un jeu qui va être intéressant pour quelqu'un qui est vraiment investi dans la simulation de course?
Ben écoute, premièrement, j'aimerais ça que ces personnes-là me contactent et m'invitent chez elles, parce que j'ai pas accès à ce genre de simulateur.
Ça coûte tellement
là,
cher, oh my god. Ouais.
Ben écoute, il y a de la comptabilité, mon Dieu. Il y a de la compatibilité avec les volants, les setups de simulateurs et tout et tout. En contrepartie, c'est sûr que on est on tend vers la simulation, mais on est encore dans une balance entre arcade et simulation. Donc, c'est pas un Assetto Corsa où est-ce que c'est hyper, hyper réaliste, puis que ça devient un jeu de course qui est hyper niche. On n'est pas là. Je pense que même si tu désactives toutes les aides à la conduite et tout, tu vas garder une dose d'arcade pareil. Donc, bon, c'est pas un jeu qui va devenir une référence dans la simulation. Je ne crois pas. Mais ça reste quand même dans la lignée des autres Gran Turismo. Donc, l'espèce de balance, si vous avez déjà joué à un Gran Turismo et que vous trouvez ça bien, l'espèce de mariage entre l'arcade et la simulation qu'offre la franchise, vous allez être encore là-dedans. Puis, vous ne devriez pas avoir de soucis ou de déception de ce côté-là. Peut-être un petit dernier point sur la facture visuelle de Gran Turismo 7. Je sais qu'il y avait quand même beaucoup de poids qui avait été mis là-dessus par Sony au cours des derniers mois. C'est bien, mais je vais mettre un bémol parce que en fait, tout ce qui est ray tracing et bon, la plupart des effets graphiques peut-être plus taxants, on les a mis dans les replays, donc dans les reprises, et on les a mis dans les menus. On les a mis dans le mode photo, mais on ne les a pas mis en course comme tel.
Donc, c'est en course.
Ben, écoute, j'imagine que c'était difficile d'aller chercher une espèce de compromis entre une bonne résolution, surtout une bonne fluidité, ce qui est très important dans un jeu de course, et le ray tracing. Donc, bref, le jeu est beau, tout particulièrement quand il y a de la pluie. Quand il y a des conditions particulières, quand c'est le soir, quand c'est la nuit, il y a des conditions qui sont dynamiques, donc il peut commencer à mouiller comme en début de course, puis là, il arrête de mouiller, fait que là, la ligne de course s'assèche, c'est dynamique, c'est super intéressant, les visuels à ce moment-là sont très beaux, le temps aussi est dynamique, donc le moment de la journée, en fait, donc on pouvait commencer une course comme à la brûlante, là, le soleil se couche, puis vous... terminer la course, c'est la nuit, littéralement. Donc ça, pour de vrai côté visuel, c'est très impressionnant. Mais, ben, c'est beau, là, mais c'est pas Forza Horizon 5, là, où est-ce que tu te promènes dans Mexico, puis que c'est comme grisant un peu. On n'est pas là complètement. Les voitures sont hyper bien modélisées, mais tu vois que l'attention, justement, a été mise sur les voitures, a été mise sur le gameplay et sur la fluidité, en fait, de l'expérience en course. Donc, bref, c'est un beau jeu, là, mais ça sera peut-être pas une espèce de porte-étendard pour la qualité graphique là, sur PlayStation 5. Un peu dans la lignée des autres Gran Turismo qui étaient tous, peut-être à part les premiers, là, qui tiraient profit de façon très impressionnante de la PlayStation 1, ben, tu sais, les autres, c'est de très beaux jeux, mais bon, qui étaient un peu dans ce paradigme-là de c'est beau, mais tu sais, tu vas pas là pour admirer le paysage nécessairement. Donc, écoutez, moi, somme toute, je dirais que si vous êtes un fan de Gran Turismo, vous allez aimer Gran Turismo 7. C'est les traditions, c'est la nostalgie. C'est un peu la même recette qu'il y a 25 ans pour le meilleur et pour le pire. Mais si vous avez aimé ça il y a 25 ans, ben, ce qui devait être absolument modernisé, c'est-à-dire le gameplay et les graphismes, ben, ça a été modernisé. L'expérience est cool et plaisante. Ensuite, pour l'enveloppe, là, si on parle des modes de jeu, si on parle, bon, surtout de la progression, un peu du mode carrière qui est là officieusement, ben, ça aussi, c'est un peu bloqué, je trouve, peut-être pas 25 ans, mais peut-être un 15 ans en arrière, facile. Fait que si vous arrivez d'une autre série de jeux de course qui est peut-être un peu plus arcade ou peut-être un peu plus enrobé, comme Forza Horizon ou The Crew, c'est pas un bon exemple, là, c'est pas un bon jeu de course nécessairement, mais bon, vous voyez le genre un peu. Ben, vous allez peut-être trouver ça un peu vétuste, là, que vous allez avoir du plaisir en course, mais au niveau, c'est ça, mode carrière qui est plus ou moins là, des menus. Une statistique que je trouve quand même très intéressante, c'est que tu peux aller voir un peu comme ta page de pilote là, sur à partir du menu principal pour voir le nombre d'heures que tu as joué, le nombre de tours que tu as fait, ta voiture préférée. Si tu joues en ligne, tu peux voir aussi ton classement de pilote en ligne, ton classement d'esprit sportif et ainsi de suite. Et ça me disait que mon ratio d'heures jouées versus les heures passées en course, mais vraiment comme en course, c'était un tiers, deux tiers.
OK.
OK.
Genre, j'ai passé trois fois moins de temps à courser qu'à jouer dans le jeu. Là. Comme, mettons qu'on dit que j'ai joué 30 heures, ben j'ai couru pendant 10 heures.
Oh,
ouais. Fait qu'il y a 20 heures qui a été perdu d'un menu au Gran Turismo Café, à taponner sur mes chars, changer les pièces. Ça aussi, là, moi, je trouve que ça fait mal un peu quand tu compares ça à un jeu au monde ouvert comme Forza Horizon, où est-ce que tu roules toujours ou presque, tu vas modifier un peu ta voiture, acheter une voiture, mais ça se fait tout le temps sur la route, la plupart du temps, toutes ces choses-là. Là, pour donner, je peux terminer avec ça, mais pour donner un exemple, bon, sur les menus, essentiellement, là, vous allez au Gran Turismo Café, on vous donne une mission. La mission, c'est de courir, courir sur une nouvelle piste, un nouveau championnat, mettons. Là, tu t'en vas voir, tu sors du Gran Turismo Café, là, il y a une petite cinématique. Une fois qu'il te dit ça, il te présente le menu, il y a une petite cinématique. Ensuite, tu sors du menu du Gran Turismo Café, tu arrives dans le menu principal de Gran Turismo, tu ouvres le menu pour les courses. Là, tu te rends compte que ça te prend une voiture à propulsion arrière, tant de chevaux, t'as pas ça. Tu retournes au menu principal, tu rentres dans le menu pour aller acheter des voitures. Puis là, mettons, là, les voitures neuves, ben, ça va être classé par constructeur. Fait que là, tu rentres dans le constructeur, tu rentres dans acheter une voiture, tu choisis ton modèle, tu l'achètes. Après ça, rond, tu retournes. Là, elle est comme pas assez puissante. Fait que là, tu t'en vas au garage. Là, tu t'achètes les pièces, tu boostes ça un peu. Après ça, là, c'est vrai, une fois que tu l'as acheté, je ne sais même plus si tu l'as en ta possession, mais je ne sais même plus si c'est équipé. Il faut peut-être que tu ailles au garage pour l'équiper. Des fois, il y a ce genre de situation-là. Ton garage, pas le garage de modification. Puis, en tout cas, une fois que tout ça est fait, tu retournes dans le menu de course, tu rentres dans le championnat. Le championnat commence. Là, tu vas avoir un menu où est-ce que là, tu peux tuner tes affaires, tuner ta voiture, toutes ces choses-là. Puis après ça, la course commence.
Ben voyons.
C'est tout so straightforward.
C'est ça, c'est Gran Turismo, c'était même en 97, mais tu sais, fait que bref, vous irez voir la critique complète sur paysurstart.com, j'y ai donné une note de 8.5, fait que j'aimais ça au final, c'est un bon jeu, c'est un bon Gran Turismo, c'est un excellent jeu de course, mais seigneur que je trouve pas ça adapté à 2022 sur quand même différentes facettes. Puis, il faut que tu le juges en tant que Gran Turismo. C'est un bon Gran Turismo. C'est un retour aux racines. Ça a encore la dimension sportive en ligne. Donc, si vous voulez faire des courses, des trucs compétitifs, c'est encore là. Donc, c'est un bel hybride. C'est un beau compromis. Mais c'est ça. Si vous arrivez d'une autre série, moi, je dirais, allez chez un ami, l'essayer peut-être. Regardez des vidéos en ligne. Parce que vous allez aimer le gameplay, c'est sûr. Si vous aimez la course, vous allez trouver une façon d'aimer le gameplay. Mais assurez-vous là, de bien comprendre l'expérience puis de vous dire que vous allez jouer à ça plusieurs heures et non pas faire trois courses puis dire « Hey, c'est clunky, hein? » C'est quand même 90$. Donc, un bon jeu, mais savez dans quoi vous vous embarquez. Si vous aimez Gran Turismo, ben, tant mieux, parce que vous le savez déjà. Donc, voilà.
Ouais, c'est excellent. Ben, merci beaucoup, Raph. On peut checker ça. Donc, Gran Turismo 7 qui est maintenant disponible. Hey, merci tout le monde de nous avoir écoutés. C'était le fun comme podcast aujourd'hui. On espère vous avoir apporté des petites nouvelles cute pour ensoleiller vos journées, peut-être pour faire passer l'hiver un peu plus rapidement. D'ailleurs, il reste 2 semaines là, avant qu'on change l'heure. Ça s'en vient, ça s'en vient. Merci beaucoup, Christine.
Merci.
Et merci beaucoup, Raphaël.
Merci à toi, Cassie.
Et donc, si vous avez aimé ce que vous avez entendu, ben, on vous invite à visiter lepaissursteak.com pour lire tous nos articles. D'ailleurs, il y a un article de Gran Turismo, un deuxième article de Gran Turismo de Raph qui est très drôle. Je suggère d'aller voir ça. C'est un album photo à Québec. Donc, si vous posez des questions en ce moment, allez voir ça. Je ne vais pas vous spoiler, c'est trop bon. C'est excellent. Il y a beaucoup de gens qui adorent cet article-là en ce moment. Donc, c'est très le fun à observer. Aller chercher aussi la petite démo de Kirby, elle est disponible depuis une semaine, donc au moment que vous écoutez ça va faire une semaine, donc allez chercher ça, j'y ai joué, j'ai trouvé ça très charmant, et puis si vous aimez ce que Pays Start fait, ben on vous invite à nous suivre un peu partout sur le web, c'est sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, donc c'est Pays Start partout. Vous pouvez nous suivre et puis vous pouvez nous suggérer des articles aussi, faire connaître peut-être votre projet. Donc, écrivez-nous si vous avez des questions. Ça va faire plaisir de vous répondre. Et sur ce, ben, on se dit à la semaine prochaine!